Le mien, il est encore.
Bon, allez, ça commence. Non, j'étais plus, non, j'étais plus. Merci. Donc, tout d'abord, je voulais vous présenter les excuses de Madame Vigné, la directrice de l'efficience de l'offre de soins de l'ARS Rhône-Alpes, donc qui devait à l'origine faire cette présentation. Elle m'a déléguée, donc en tant non pas non plus que chargée de mission psychiatrie et santé mentale de l'ARS Rhône-Alpes, mais en tant que responsable du pôle modernisation de l'offre de soins. Fonction que j'ai donc intégrée depuis le 1er janvier de cette année. Autant vous dire que, bon, certes, vous allez comprendre que, compte tenu des missions qui me sont confiées, donc la régulation, la contractualisation, la gouvernance, la performance et l'investissement, vous verrez qu'il y a peut-être quelques petites choses à dire sur ce sujet-là. Et autre forme de clin d'œil, cette promotion n'est pas la meilleure qui me soit arrivée cette année. Je suis grand-mère depuis quelques temps et j'envoie un petit clin d'œil à Jacques Maresco qui sait de quoi je parle. Voilà. Hop. Donc je vais vous. Alors, le retour en arrière, c'est donc ça va être l'autre. Donc, je voulais vous présenter un sommaire en trois points. Juste faire un petit rappel donc sur ce que dit la loi HPST, comment on s'est organisé en Rhône-Alpes, et puis je vous propose quelques exemples d'applications. J'en ai choisi trois. J'aurais pu vous en proposer plusieurs autres. Donc, que dit la loi HPST ? Bon, d'accord, c'est l'autre sens. On va y arriver. Voilà. Donc, quatre titres que j'ai rappelés très, très succinctement. Un volet modernisation des établissements de santé, y compris dans leur gouvernance, avec donc une exigence accrue sur les champs de la qualité, la sécurité des soins, le renforcement des coopérations avec deux outils, les CHT et les GCS. On en reparlera. Et puis, donc, un axe aussi important concernant la performance. L'amélioration de l'accès à des soins de qualité, donc une organisation en fonction des niveaux de recours et des besoins de santé, avec, par rapport à une ancienne des ARH, quelque chose de nouveau qui est un volet ambulatoire, donc qui va être très important et qui prévoit donc à la main des ARS l'organisation de la permanence des soins ambulatoires, le pilotage de la démographie médicale, la création de modes d'exercice groupés, collectifs, et des contrats incitatifs pour les médecins libéraux à l'installation en zone fragile. La coopération entre les professionnels, ça aussi on pourrait en parler, et surtout des moyens d'action décloisonnés, donc le FIR. Et puis la prévention et la santé publique qui sont aussi qui ont rejoint les compétences donc des ARS. Voilà. Et surtout un titre donc très important, le quatrième, c'est la politique régionale de santé se décline au niveau des territoires de santé. En fait, la définition de ces territoires, c'est le directeur général de l'ARS donc qui va les définir dans le cadre du PRS. Et cette définition doit être établie sur la base d'un diagnostic partagé sur les enjeux sanitaires du territoire en question et doit proposer donc des conditions donc sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet régional de santé. Et puis au niveau de la gestion du risque, en fait, c'est la constitution des ARS avec regroupement donc de l'ensemble des compétences hein, qui intervenaient dans ce cadre-là. Alors, en traduction. Non, c'est l'autre. Voilà. En traduction, donc, les ARS doivent proposer une organisation régionale du système de santé, donc qui s'inscrit dans un ancrage territorial affirmé, qui va permettre donc une meilleure accessibilité aux soins pour la population selon ses besoins. Donc plutôt qu'égalité, moi je préfère introduire la notion d'équité Pour justement reconnaître la diversité des situations locales, selon un mode gradué, pour installer et fiabiliser les parcours de soins et dans un contexte d'exigence accrue de qualité, sécurité, performance, etc. Et ça, le PRS donc est en charge de le traduire. Pour leurs moyens d'action, les ARS donc ont un champ d'action beaucoup plus large, qui va de la prévention à la réhabilitation, mais et dans le champ de la santé mentale. Ça peut donc se discuter. Et il y a encore des connexions à établir sur tout ce qui concerne les questions sociales, de la médecine libérale à la médecine hospitalière et surtout donc avec le fonds d'intervention régional qui permet donc de financer des actions dans ce cadre-là. Alors, comment on a fait en Rhône-Alpes. Alors, avant de parler de la méthode qui a été utilisée, il faut présenter la région, parce que effectivement, certainement que la méthode qui a été choisie en Rhône-Alpes n'est pas du tout adaptée similaire à celle que d'autres ARS ont pu retenir. Bon, en gros, c'est 6,7 millions d'habitants, dont 1,5 million entre 0 et 17 ans. 5 territoires, 8 départements, 13 bassins de santé, 43 zones de santé de proximité, 220 secteurs de garde libérale, 3 CHU, 350 établissements de santé, dont 44 qui ont une activité de psychiatrie. Des omnipraticiens, donc généralistes et spécialistes, des infirmiers, des kinés, donc vous avez les données chiffrées. Et en petit clin d'œil, en dernier lieu, 13 TGI, vous savez pourquoi, et 4 cours d'appel. Bon, j'ai décidément beaucoup de problèmes. Une fois qu'on a donné quelques chiffres, il faut un petit peu s'attarder sur la spécificité de la région. C'est une géographie contrastée. Donc, nous avons bien sûr des métropoles importantes. Donc, elles apparaissaient très bien donc, dans le cadre de l'intervention de Madame Schmitt. Nous avons aussi quelques zones donc de déserts médicaux en zone donc rurale, mais aussi, et c'est quand même important pour la région Rhône-Alpes, dans tout ce qu'on appelle les zones périurbaines qui se sont développées donc autour des métropoles. Et nous avons aussi une zone de montagne, et ça vous verrez, on en reparlera, parce que ça induit en termes d'organisation des soins, une particularité, c'est qu'il faut gérer la saisonnalité avec des afflux massifs de population. En hiver, donc, c'est toute la montagne, les stations de ski, mais aussi en Ardèche, donc, dont la population peut tripler en période estivale. Une attractivité différente des territoires de santé pour les professionnels de santé. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, pas une spécificité de la région Rhône-Alpes. Une consommation de soins différente selon les territoires, avec là, pour le coup, une spécificité qui nous interroge beaucoup. Nous avons, par exemple, le territoire à ouest, donc le territoire en gros centré autour de la Loire, un territoire qui a un taux de recours aux soins globalement inférieur à l'ensemble de la région, mais aussi, bon, bien sûr, inférieur à l'ensemble de la moyenne nationale. Et cette année, on assiste à un effondrement de l'activité. Donc, il y a une problématique particulière sur laquelle on est en train de se pencher. Comme pour le reste de la population, des professionnels de santé qui vieillissent, mais une région, et ça, c'est un élément très important, qui reste globalement très attractive. Donc, ce sont des données de l'ORDPS, de l'Observatoire régional des professions de santé. 75% des étudiants qui font qui sont étudiants en médecine en Rhône-Alpes continuent d'exercer et s'installent donc en Rhône-Alpes. Alors, finalement, qu'est-ce qui a été décidé? Eh bien, il y a en fait 4 strates de territoire propres donc au territoire de santé. Il y a donc les 5 territoires de santé qui sont le lieu d'exercice de la démocratie sanitaire. L'espace de mise en convergence des politiques globales de santé. En gros, ce sont les 3 CHU, plus de, on va dire, points de développement importants. En gros, c'est Valence et Bourg-en-Bresse autour des trois CHU. On a conservé les 13 bassins de santé qui avaient été définis dans le cadre du SROSS 3 parce qu'ils sont établis sur les flux des patients et que ça, c'est quand même important. Et puis parce que, il n'y a pas de rupture parce qu'il y a de nouvelles administrations qui prennent le relais. Il y avait donc des recompositions, des structurations qui étaient en cours avant 2009 et donc on les a suivis. Les 43 zones de soins de proximité, également issues du SROSS 3, donc qui permettent l'observation de la santé de la population. Et cette quatrième strate, qui est pour nous, je dirais quasiment la plus importante, celle sur laquelle on intervient beaucoup, et qui n'ont pas de frontières bien définies. Ce sont les territoires de projet ou d'action, et dont, je le disais, le découpage géographique s'adapte à leur objet. Alors, ce sont, par exemple, l'organisation des filières gérontologiques. Bien souvent autour d'un établissement de santé qui est quand même le plus souvent pivot de la réflexion, on travaille avec l'ensemble des acteurs pour organiser le parcours donc, de la personne âgée. Les communautés hospitalières de territoire, donc c'est aussi, on a défini en Rhône-Alpes que ce serait quelque chose qui relèverait du volontariat. Et c'est à chaque fois qu'on entame ou que les établissements entament une réflexion dans ce champ-là, il y a une définition du territoire, de l'aire d'intervention qui est posée. Les contrats de modernisation, je vais vous en parler de façon plus précise, et les secteurs de psychiatrie. Donc, un exemple pour vous donner l'illustration de comment on a pris à cœur au niveau de l'ARS Rhône-Alpes de travailler vraiment dans un ancrage territorial et tout ce qui pourrait sembler comme des procédures qui s'imposent un petit peu à nous. La régulation, quand je dis régulation, c'est la dévolution des autorisations d'activité. On a mis en place donc un système, une méthode de travail qui nous permet vraiment de faire en sorte que les grandes campagnes d'autorisation trouvent une signification dans le cadre donc de l'ancrage territorial. Alors, on s'y prend 2 ans en amont des renouvellements de chacune des activités et on travaille à chaque fois sur une étude diagnostique qui permet de mettre en lumière les problématiques qui sont liées à une discipline, peu importe le motif, si c'est la sécurité, la qualité, la performance ou la densité de mise en œuvre sur le bassin de santé, ce qui nous permet de rédiger le dossier d'évaluation qui va être proposé donc aux acteurs pour qu'ils puissent déposer leur dossier de renouvellement. Et à partir de là, on va définir un schéma cible du déploiement futur donc de l'activité pour tenir compte donc dans ce laps de temps de 2 ans des recompositions à venir et donc de l'accompagnement qui est nécessaire, de voir quel est le maintien d'une organisation et d'un maillage opérationnel sur ce territoire avec donc certaines conséquences. Je vais vous donner 2 exemples. Les éventuels appels à projets en cas de carence. Bon, je viens de dire que Rhône-Alpes était une région très attractive. On a très peu d'appels à projets. Et tout ça se fait donc au travers d'une animation territoriale. Donc les délégations départementales sont chargées, discipline par discipline, de réunir l'ensemble des acteurs considérés sur le territoire considéré et de travailler à une organisation revue en amont donc de la dévolution des autorisations. C'est une méthode qui s'applique donc sur l'ensemble du registre de la régulation. Ce sont les missions de service public, la reconnaissance tarifaire. Alors, deux exemples qui sont un petit peu mon quotidien, c'est notamment le renouvellement donc des autorisations de cancérologie. Sur les 80 autorisations qui existaient, nous avons donc lancé 30 injonctions. Ça veut dire qu'il y a 30 autorisations qui sont remises en question et qui ne seront pas renouvelées tacitement, et où on demande aux opérateurs de retravailler donc sur le territoire. Ce sont des problématiques de seuil d'activité, mais ce sont aussi des problématiques de mise en place donc de sites associés. On s'aperçoit que certes, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent continuer à faire de la chirurgie carcinologique, mais qu'on a peut-être quelques carences en termes donc de sites de chimiothérapie. Le SSR, alors la psychiatrie c'est compliqué, mais j'ai trouvé mieux. Le SSR, c'est éminemment compliqué. Et là aussi, on est en train de travailler sur un schéma cible pour remettre un petit peu de cohérence. En gros, la problématique, c'est 189 établissements qui font du SSR avec une moyenne d'à peu près 30 à 50 lits par structure. Et bien sûr, de la vétusté, des problématiques de financement, et donc tout le monde qui veut pérenniser son implantation demande de l'extension d'activité. Maintenant, je vais vous parler. Non. Ça marchait bien tout à l'heure, je ne sais pas. Des contrats de modernisation. Alors, les contrats de modernisation, bon. La suite. Merci. Donc, on s'est aperçu. Si. C'est bon. On a bien vu que pour traduire cette nécessité d'ancrer l'organisation du soin dans un territoire, on n'avait finalement pas beaucoup d'outils. Parce que donc les contrats qui existent actuellement au plan juridique sont dépourvus d'une approche territoriale, même si on a essayé d'intégrer une annexe territoriale. Et surtout, ils sont dépourvus d'une approche globale en termes de coordination des offreurs de soins. Donc, on a cherché un nouvel outil qui nous permet justement de pérenniser cette organisation dans un cadre contractuel. Et c'est ce contrat de modernisation de l'offre et des parcours de soins qui est donc pluripartenarial, qui s'appuie sur un projet médical de territoire et qui mobilise l'ensemble des offreurs de soins, donc des hospitaliers, au privé, villes médico-sociales, etc., pour accompagner la recomposition de l'offre, l'amélioration de l'organisation et, si possible, définir des actions ou des dispositifs innovants. Donc, comment ça se passe, un contrat de modernisation? Eh bien, quel que soit le dysfonctionnement qu'on aura pu repérer, c'est à partir de n'importe quel point d'entrée. Donc, je vous les ai listés. Ça peut être un problème donc de budgétaire, ça peut être des problèmes de rupture de soins, ça peut être des problèmes de démographie médicale, des redondances d'activité, ça peut être des problèmes de certification, ça peut être des problèmes donc d'investissement qui ne peuvent pas être financés directement. Donc on établit un prédiagnostic, on rédige une note de cadrage donc du projet médical. Et ensuite, donc, on travaille avec les opérateurs de soins en concertation. La méthode de travail, ça peut être soit dans le cadre d'un appel à projet pour faire en sorte que les acteurs se projettent et s'inscrivent et donnent leur façon de proposer des organisations. Ça peut être aussi l'appel à un consultant pour aider quelquefois à la médiation. Et l'objectif, donc, c'est de négocier un contrat de modernisation qui permettra donc à l'ensemble des intervenants de s'inscrire contractuellement. Ça fera l'objet, bien sûr, d'une évaluation. Voilà. Comment on s'y prend donc pour repérer, et en fait, en gros, les cahiers des charges, ils sont établis à peu près sur toujours les mêmes modalités, sur les mêmes interrogations, une forme de checklist. On passe en revue, donc, autour de quatre grands thèmes. Comment garantir l'accès aux soins et la pérennisation de la mission de service public territorial. Donc, on se pose des questions. Quel est le niveau de l'offre de premier recours? Comment se font les soins non programmés? Comment la médecine libérale adhère ou participe à la permanence des soins? Quelle organisation des transports sanitaires? On se pose la question de la pertinence de l'offre de soins sur le secteur. Donc, est-ce qu'ils sont toujours adaptés, pertinents? Quelle articulation entre soins de ville, soins hospitaliers? Comment sont organisées les filières de soins? Est-ce qu'il y a un impact sur la gestion des lits? Quelle est la part possible pour les alternatives à l'hospitalisation? Vous voyez que déjà, j'allais dire, l'exemple de la psychiatrie fait son chemin. Quelles sont les possibilités de mutualisation des compétences sur le secteur? Et quels sont les gains d'efficience possibles dans la production du soin? Donc voilà à chaque fois les questions que l'on se pose et on demande donc à l'ensemble des opérateurs de répondre ou de à quelles conditions ils pourraient répondre. Ça doit se traduire par des engagements respectifs, donc l'engagement de chaque offreur à la mise en œuvre du projet et la contrepartie de l'agence, donc n'oublions pas que nous avons le FIR. Eh bien, ça peut être plusieurs choses, l'appui méthodologique, l'accompagnement social, y compris au niveau de la gouvernance. Je pense à des exemples précis où des établissements qui sont en situation isolée, eh bien, trouvent appui auprès d'un plus grand, on va dire, et quelquefois, il faut aller jusqu'à la gouvernance, la direction commune, pour permettre le décloisonnement et la mise en place, donc, de liens entre communautés médicales, entre les deux établissements. La mise en œuvre de dispositifs innovants expérimentaux, je vais vous en présenter un juste après. L'ajustement, bien sûr, des autorisations, ça peut être l'aide à l'investissement. Et ensuite, chaque plan d'action et le contrat de modernisation en tant que tel, il est annexé au CEPOM de chacun des intervenants. Et vous voyez qu'on a des CEPOM sur l'ensemble des établissements de santé, mais aussi dispositifs d'exercice groupés. Alors, ça, c'est notre feuille de route 2013. Je vous ai mis à chaque fois où on en était. Je voulais aussi vous signaler que nous avons deux projets sur les huit de l'année. Nous avons deux projets qui sont consacrés à l'organisation de la psychiatrie sur le territoire régional. Les Rhône-Alpins comprendront que nous ayons choisi la Drôme-Ardèche et la Haute-Savoie. Alors, un exemple très rapide de ce qui s'est fait à l'occasion de la réflexion sur la Tarentaise et d'un exemple de mise en synergie du premier recours et des établissements hospitaliers. Ah non, je suis allée trop vite. J'espère que c'est bon. Voilà. La problématique sur ce territoire de la Tarentaise, c'est en zone de montagne, c'est la saisonnalité. Et un constat, il existait donc, et il existe toujours des cabinets de montagne qui rendent un service très appréciable, notamment pendant les périodes d'activité saisonnière. Mais on s'est aperçu, donc en dialoguant avec les opérateurs, que ce type d'exercice était en grande difficulté et qu'il y allait avoir des solutions à trouver. Du fait que, en fait, il y avait des difficultés de remplacement des départs à la retraite pour différents motifs. Pour nous, il est impératif de maintenir ces dispositifs pour éviter donc les ruptures d'accès aux soins et les excès d'afflux aux urgences des établissements de santé. Ça représente quand même 350 médecins de montagne. Leur activité, c'est 140 000 blessés pris en charge, dont uniquement 5% qui sont orientés vers une hospitalisation. Donc, il y avait nécessité d'une coordination donc entre ces dispositifs et les urgences hospitalières. Alors, ce qu'on s'est proposé de faire, et c'est en cours, voilà. Donc, on travaille sur la définition d'un cahier des charges de ces structures de soins de premier recours, hein, des cabinets de montagne, c'est avec ce qu'on appelle petits plateaux techniques, et avec une gradation donc de ces plateaux techniques qui peuvent aller jusqu'au conditionnement du patient, jusqu'à donc quelque chose de beaucoup plus léger. On va les accompagner financièrement, notamment pour l'installation d'équipements en imagerie, par exemple. Et surtout, l'objectif, c'est de faciliter les interventions croisées. Donc, faire en sorte que, problème de saisonnalité, les urgentistes puissent participer au système d'astreinte des médecins correspondants SAMU sur certaines périodes. Inciter les établissements à proposer à ces médecins généralistes des contrats d'exercice salarié pour participer à la prise en charge des urgences. Et puis organiser et améliorer l'accès aux spécialistes, donc des structures hospitalières, dans ces cabinets de montagne si nécessaire. Bon, l'objectif, c'est toujours de fluidifier les circuits de prise en charge, hein, bien sûr. Mais on a travaillé sur cette spécificité cabinet de montagne et déjà on anticipe sur le fait que on pourrait peut-être étendre ce type de dispositif donc dans d'autres registres, d'autres problématiques. On pense notamment à l'adossement aux hôpitaux de proximité en Ardèche, hein, où on a aussi un problème de saisonnalité et où on a aussi un problème donc de démographie médicale. Et puis, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, et là peut-être qu'on y retrouvera d'autres interactions et avec la psychiatrie, l'expérimentation dans les grandes zones urbaines et donc dans ces zones périurbaines qui sont pour nous des enjeux de déserts médicaux. À améliorer, bien sûr. J'en viens au secteur de psychiatrie. Alors, bien sûr, je vous fais la grâce de ne pas revenir sur toute l'évolution législative et réglementaire, et en plus, on va vous en parler. Je voulais juste vous faire, de façon très rapide, vous montrer l'articulation donc il y a entre nos 5 grands territoires, les départements et les secteurs. Alors, ce sont des cartes territoire par territoire, où on voit effectivement des zones un petit peu frontières, sachant que je crois qu'il faut peut-être caler tout de suite les niveaux d'intervention. Pour nous, les secteurs ont une existence en tant que aire d'intervention des établissements psychiatriques qui doivent mettre en place donc une organisation des soins dans ces territoires-là. On les reconnaît, on continue à les reconnaître, mais j'en parlerai de façon plus précise. Et je dirais que notre action, c'est peut-être intervenir dans ces zones frontières entre deux départements, deux territoires, deux établissements de santé pour mettre en place les éléments de coordination nécessaires pour éviter tout simplement les ruptures. Donc, je vais aller très vite parce que vous les aurez de toute façon dans le diaporama. Très vite, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les secteurs en Rhône-Alpes, c'est une organisation qui doit trouver, qui doit permettre une articulation donc entre les territoires et les départements. Donc, en 2005, il y avait 79 secteurs adultes qui recouvraient des disparités quand même très importantes, de 27 000 le plus petit à 110 000 habitants le plus important. Aujourd'hui, à fin 2012, c'est vrai qu'il y a une tendance au regroupement et de certains secteurs, notamment dans les grandes métropoles, et qu'on est donc, on a perdu en gros 10 secteurs. En moins de 10 ans. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc le. Voilà. Ce que l'on cherche à faire, donc, par rapport à l'organisation de la santé mentale et de la psychiatrie et de la santé mentale au niveau de Rhône-Alpes, c'est de mettre en place, pour concilier tout ça, une organisation graduée. Et ça, c'est le volet psychiatrie du SROSPRS, avec plusieurs étapes, plusieurs niveaux. Attention, c'est le regard de l'ARS sur l'organisation. Je pense que c'est très important. Ce n'est pas la définition du secteur, c'est le regard que l'ARS porte sur l'organisation. Donc, au cœur de la proximité, c'est le secteur dans sa dimension ancrage dans la cité. Ça n'est pas la définition, c'est une définition très réductrice du secteur qui n'est pas celle que nous retenons. Donc, autour de les CMP, qui sont, eux, le maillon de l'ancrage territorial, le développement des alternatives, tous les dispositifs mobiles que l'on peut imaginer. Donc, ça peut être les équipes mobiles. Et nous sommes en train de travailler avec des équipes mobiles mixtes, des équipes mobiles interchamps, médico-sociales et sanitaires, mais aussi des équipes mobiles, et ça c'est plus récent, notamment les équipes mobiles gérontologiques, qui sont sanitaires et psychiatriques, et des équipes mobiles sanitaires qui sortent des murs. Les visites à domicile, donc comment on peut réactiver tout ça, les médecins généralistes, et bien sûr les conseils locaux de santé mentale. Alors, le niveau du département, c'est quelque chose donc qui permet d'obtenir une organisation plus pertinente sur les liens avec le somatique, donc la problématique de l'urgence, les intersecteurs, donc avec la spécialisation soit des prises en charge en raison de population particulière ou de pathologie spécifique, et c'est le niveau de regard que nous portons sur les besoins en hospitalisation complète. Le soin de recours universitaire avec les centres ressources. Et puis, tout, je dirais, c'est quasiment de l'informel. Ce sont les réseaux donc autour des maisons des ados, autour de la réhabilitation, autour des troubles du comportement alimentaire. Bien sûr, qui dit territoire, dit problématique de réduction des inégalités. Alors, je continue à dire que l'égalité au sens strict n'est pas cohérente, mais en revanche, qu'il faut travailler à rendre l'équité en fonction donc des besoins des populations desservies. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire. On n'a pas beaucoup d'indicateurs en psychiatrie. On a travaillé sur l'euro par habitant, mais on arrive à des choses de plus en plus fines à partir des retraitements comptables. Mais maintenant, on peut dire qu'on est passé à un contrôle de gestion régional. Mais ça, on a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises dans d'autres lieux sur ces travaux-là. Vous dire simplement que en 2010, donc au moment de la rédaction du SROSS, les écarts des ressources entre départements sur la psychiatrie étaient de 1 à 1,6. Et il était de 1 à 6 en 1999. Nous avons toujours des problématiques d'écart entre les établissements sectorisés et c'est d'un niveau de 1 à 3. Alors, la manifestation de l'inégalité, ceux qui tirent vers le bas, ce sont les établissements sectorisés multi-activités. Je n'ouvre pas le débat. On a un problème donc au sujet sur un territoire particulier qui est la Haute-Savoie, avec une évolution démographique importante, des opérateurs de petite taille, et puis une zone frontière, donc la spécificité de l'attraction de la Suisse vers les professionnels de santé. On a remarqué aussi que les établissements les moins coûteux, c'était ceux qui avaient pas beaucoup d'activités spécifiques et qu'on était dans ce que j'appelle moi le secteur tout venant, et aussi ce qui était les plus coûteux, c'était ceux qui avaient la plus longue DMH. Je ne l'ai pas mis là, mais il faut savoir que 60% des ressources de la psychiatrie sont mobilisées sur l'hospitalisation complète, qui prend en charge 20% de la file active. En Rhône-Alpes, à contrario, 40% donc des ressources sur l'ambulatoire qui prend en charge donc 80% de la file active. Ça nous interroge vraiment beaucoup. Alors, On continue la réflexion, puisque vraiment au niveau régional, ça continue de phosphorer. Les questions, est-ce qu'il y a un effet de masse critique? Est-ce qu'il faut s'interroger sur le nombre de lignes de soins? Le rapport intra-extra, j'en ai parlé. Et puis, bien sûr, à un moment, il faut se poser la question des pratiques. Donc, d'où les études à venir. Donc, les inégalités inhérentes aux organisations dans les territoires, parce que c'est vraiment, et on le voit bien, c'est dans ce cadre-là que les inégalités se manifestent le plus. Et puis, sur les lignes de soins. Alors, comment on a approché, donc ça c'est un, je vais terminer par deux exemples un petit peu plus concrets par rapport à la psychiatrie. Bon, voilà, on s'est mis à réfléchir, je veux dire que ça a été assez pragmatique sur l'intervention de la psychiatrie et de sa place dans les communautés hospitalières de territoire. Donc un petit rappel, en Rhône-Alpes, le volontariat, un cadre territorial souple, constitué quasiment de façon ad hoc. Et puis, les principes que l'on attend, nous, des acteurs qui s'engagent dans cette négociation, c'est l'amélioration de la qualité des soins, le renforcement de l'offre de soins et la réduction ou la stabilisation des coûts, avec un projet médical donc territorialisé qui est incontournable. Mais je vous le dis tout de suite, la CHT est trop, enfin c'est un concept qui est trop réducteur. Vous avez vu pourquoi aussi on a mis en place les contrats de modernisation, parce que ça nous permet d'aller sur l'ensemble des acteurs et y compris sur le premier recours. Néanmoins, on y a travaillé. Pareil, quand on aborde cette question-là, eh bien, un petit peu une checklist, un petit peu la même que, enfin, adaptée à la psychiatrie, sur les questions qu'on se pose avant de commencer la réflexion. Qu'est-ce qu'on va chercher? Quels sont les objectifs donc de cette réflexion? Alors, ça a été regroupé en quelques items. Donc, les liens avec le MCO, les activités de secteur. Les besoins, alors toujours pareil, les alternatives, hein, au sens organisation des soins, les besoins spécifiques donc au territoire considéré, donc avec, alors ça c'était un exemple qui, enfin c'était tiré d'un exemple dont je vous parle tout de suite après. Il y avait une problématique particulière donc sur la prise en charge des ados. Et puis, bien sûr, il ne faut pas se gêner. Si on peut donc être plus performant sur des mutualisations logistiques et ou médico-techniques, on va y aller. Non. Je comprends. Je ne sais pas. Arrêtez-la. Voilà. Donc, le pointeur vit sa vie, hein, je vous le dis. Donc, nous avons, je vais terminer par ces deux exemples. Donc, c'était assez facile d'une certaine façon. C'est la communauté hospitalière de territoire Nord-Ouest, c'est ainsi qu'elle s'appelle, donc qui a mis autour de la table deux établissements MCO Villefranche-Tarare et Saint-Cyr. Pour la petite histoire, Saint-Cyr est à cheval sur trois grands territoires de santé, tournés vers Villefranche, qui il y a une problématique un petit peu moins critique au sens urbain du terme, et puis son territoire s'étend aussi sur la Duchère, qui est une des zones sensibles donc autour de Lyon. Donc on a travaillé sur un diagnostic partagé, qui a permis de mettre en relief que les caractéristiques de la population la plus consommatrice de soins, c'était les ados, à partir des travaux issus de l'atelier Santé-Ville, et les jeunes adultes de 18 à 40 ans au titre de problèmes d'alcoolisation excessive. Alcool, pas addiction, hein, bien alcool. Les points forts, donc, Saint-Cyr était bien ancré, participait très activement au CLSM, des alternatives diversifiées, des liens éprouvés avec les partenaires. Des points faibles, donc de nombreux postes vacants de pédopsie dans les institutions médico-sociales, donc une surenchère et une sursollicitation. Des problèmes de manquer d'organiser donc les liens autour de la périnatalité, les adolescents donc et les jeunes adultes. Donc deux projets phares ont été réalisés, la maison des ados, le réseau de périnatalité. Et ils sont en train de mettre en place, je dirais, moi ce que j'appellerais de la somatique de liaison donc via vers Saint-Cyr et de la somatique et de la psychiatrie de liaison qui existait déjà de Saint-Cyr au sein de Villefranche. Je voudrais la suivante. La CHT de Grenoble. Vous êtes priée de quitter la salle. Donc, je dirais que c'est un contexte beaucoup plus complexe avec un CHU qui pose la question de quelle psychiatrie dans un CHU. Un transfert d'activité, donc avec un regroupement de ce qu'on pourrait appeler les activités traditionnelles de la sectorisation, donc qui sont regroupées à la main du centre hospitalier Alpizère. Donc, comme je vous dis, quelle est la place de la recherche? C'est un nouveau territoire d'intervention pour le centre hospitalier Alpizère et qui a, à notre sens, ARS, le travail interne à faire de définition de ces secteurs avec, on l'accompagne, hein, c'est qu'il y a une mise à niveau des moyens. En gros, le CHU avait un financement inférieur au centre hospitalier Alpizère. Le transfert ne s'est pas fait au rabais. C'est que dans un cadre donc âprement négocié, on s'est mis d'accord sur un montant de mise à niveau donc, pour faire en sorte que ce transfert soit complètement opérationnel. Et il y a un projet d'investissement, bien sûr, à la clé. Donc, j'y reviens, les limites de la CHT. Des acteurs privés qui existent sur le territoire considéré, donc si on ne les y invite pas, on a loupé une grande partie de la problématique. Et puis la nécessité de repenser les filières de prise en charge. Les concertations se poursuivent. Enfin, ce que je dirais en conclusion, c'est un petit peu notre façon de voir les choses, parce qu'à part une réforme des collectivités territoriales, on ne résoudra jamais la problématique des enchevêtrements donc de zones de compétences différentes. Donc, sur les territoires de santé, le pragmatisme, et on s'adapte. Rappelez que les territoires de santé ne constituent pas un lieu d'exercice du pouvoir, mais un lieu d'organisation de l'exercice des missions de service public. Que nous avons des outils réglementaires perfectibles dont c'est acheté. Je ne vous ai même pas parlé des GCS parce que, bon, c'est très bien pour gérer, je dirais, de la logistique, des choses vraiment très, très balisées. Après, ça devient beaucoup plus compliqué en termes de gestion. Et qu'on a, même si on a un exemple d'un GCS qui est devenu établissement de santé, ça ne fonctionne pas terrible. Alors, je ne peux pas faire en sorte d'ouvrir la porte de la symbolique. Donc, pour aborder la notion du territoire dans son sens reptilien, l'espace vital, le droit de propriété, les frontières, le sens tribal aussi du territoire, avec l'intransigeance culturelle et le bannissement. Vous êtes un auditoire, donc, d'acteurs de la santé mentale. Je pense que je n'ai pas à en dire davantage. Merci. Bravo.